Alan Kenberg au micro. Nous sommes à la Cannes, nous avons des technologies très modernes. Donc, c'est la séance 143, numéro 143 de la réunion 61 de la Cannes. Je ne sais plus compter, je ne sais plus où on en est. Donc, j'invente un petit peu des chiffres. Donc, c'est une réunion parmi les réunions régulières qui est toujours à l'ordre du jour. Et très souvent, c'est une réunion très productive. Donc je vais donner la parole maintenant à quelqu'un qui est relativement familier de nous, Julie Hammer, qui était la liaison avec SSAC. Elle va nous présenter les nouveaux visages, les nouvelles personnes qui constituent SSAC, et puis nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous avons 45 minutes. Julie Hammer au micro. Merci de nous avoir invités à nouveau. J'aimerais donc vous présenter Rod Rasmussen, qui est le nouveau président de SSAC depuis le 1er janvier, qui a remplacé donc Patrick Fallström. J'aimerais vous présenter la vice-présidente Julie Hammer, c'est moi-même. Donc, j'aimerais également vous présenter tous les membres de SSAC. Je vais vous demander de vous lever. Vous êtes nombreux dans la salle. Nous allons donc leur demander de se lever. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus avec un objectif particulier. Si nous avons des questions difficiles, eh bien, nous leur demanderons d'y répondre. J'aimerais vous présenter également le nouvelle liaison André Kolechnikov, qui est notre nouvelle liaison avec SSAC. Il est un petit peu en formation pour le moment. Très bien. Donc, Rod, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup. Rod Rasmussen au micro. Ça nous intéresse beaucoup de venir vous parler. C'est la première fois que je fais une présentation sur notre travail, donc soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Je viens de prendre cette fonction à la suite de Patrick et de Jim, donc je fais de mon mieux pour les remplacer. Donc je ne sais pas comment faire avancer, oui, donc j'indiquerai verbalement quand ce que je veux passer d'un transparent à un autre. Donc voilà, nous avons des différentes... On va essayer de synchroniser ce que nous avons à l'écran. Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc nous avons des mandats de 3 ans que nous commençons. Et passons donc au transparent suivant. Ah. Voilà, nous sommes beaucoup plus décontractés sur cette image. Et ces photos, vous pouvez nous reconnaître dans différents emplacements en dehors de cette salle. Nous passons donc à la suite. Voilà. Donc, voilà SSAC, le comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. Voilà qui nous sommes. 37 membres, bientôt 38 membres. Nous avons un nouveau membre qui doit être approuvé par le conseil d'administration. Et voici notre taille en général. 100 publications depuis 2002, donc nous avons atteint ce seuil. Et le jour où nous arriverons à 1000 publications, on aura peut-être un problème comme le bug de l'an 2000, mais nous avons véritablement beaucoup d'expertise à SSAC pour parler de la sécurité, de la stabilité de l'Internet. Donc je vous laisserai poser des questions d'ici peu, et ensuite nous poursuivrons notre présentation. Nous avons un processus pour les publications, pour le conseil d'administration, des conseils que nous donnons au conseil d'administration de la Cannes. En ce qui concerne la sécurité et la stabilité de l'Internet, nous travaillons à tous ces points. Parfois, nous avons des longs documents, nous avons un processus de révision également, nous essayons d'atteindre le consensus. S'il n'y a pas de consensus, eh bien, nous ne publions pas obligatoirement tous nos documents, s'il y a des objections. Donc, nous avons des résultats, nous avons beaucoup de travail qui est fait sur les différents domaines. Nous avons, mais pas toujours, des recommandations au conseil d'administration qui doit ensuite analyser cela, bien comprendre ce que l'on leur explique et voir comment ils peuvent réagir, prendre des décisions par rapport à nos recommandations. Donc, nos recommandations vont au conseil d'administration, sont analysées par le conseil d'administration. Voilà comment nous fonctionnons. Donc, voilà une liste de notre travail actuel. Voilà ce que nous avons publié également, nos publications récentes. Donc ça, c'est simplement un résumé. On va peut-être un petit peu plus rentrer dans les détails. Vous pouvez voir ce que nous analysons pour le moment. Voilà. Donc, ce qui est le plus important pour nous actuellement et qui nous occupe beaucoup, plusieurs mois, c'est le projet d'analyse des collisions de noms, NCAP. Donc, on a d'autres types d'acronymes, mais celui-là est le mieux. Nous avons donc une révision organisationnelle de SSAC. Nous avons d'autres groupes de travail qui travaillent sur le DNSSEC, donc l'Internet des objets également nous intéresse. Donc, voilà ce que nous pourrions analyser à l'avenir. Donc des thèmes qui nous concernent plus particulièrement, et la communauté également. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent plus particulièrement sur cette liste, à l'écran, je peux rentrer dans les détails. Au niveau interne, nous allons donc revoir toutes les publications que nous avons effectuées et donc combiner un petit peu tous ces conseils, fournir des informations, voir les compétences dont on a besoin pour nos nouveaux membres, c'est très important. Ce que l'on veut, c'est d'être beaucoup plus ouvert et donner plus d'informations aux personnes. Donc c'est un processus, ce n'est pas pour demain, mais on y travaille. Nous avons également l'intention d'avoir une séance à l'avenir, peut-être à Panama, sur les problèmes de sécurité, des questions émergentes de sécurité. Donc voilà le travail que nous avons fait au dernier trimestre. Et pour le deuxième trimestre de 2018, il y a plus de détails par la suite. Donc là, on commence à rentrer dans les détails. S'il y a des points qui vous intéressent plus, faites-le moi savoir, comme ça je rentrerai plus dans les détails. Mais nous avons vu les deux derniers transparents et des listes donc de thèmes et de sujets que nous analysons. Donc nous avons une révision de SSAC, la deuxième, au niveau de l'organisation de SSAC. Je sais qu'il y a des membres de l'ALAC qui sont peut-être interviewés là-dessus. Donc l'équipe de révision reçoit beaucoup de documentation, d'informations pour pouvoir parler à des personnes, pour que on fasse une révision à 360 degrés, ce qui est le mieux. Nous voulons absolument faire cette révision avec beaucoup d'intérêt. Nous voulons améliorer donc nos processus, notre organisation également. ESSAC encourage beaucoup les membres de toutes les unités constitutives et notamment de l'ALAC à apporter des idées, hein, nous dire quelle est leur opinion sur le travail de ESSAC. Vraiment, la révision vient de commencer, mais l'objectif, c'est vraiment d'améliorer les choses et d'avoir des conclusions d'ici novembre. Donc, on va voir s'ils seront en mesure de faire cela d'ici novembre. Donc, diapo suivante. Ça, c'est une réponse à la résolution du conseil d'administration datant de la réunion d'Abu Dhabi concernant l'expansion et de nouveaux GTLD. Donc, lorsque vous avez une nouvelle chaîne qui est introduite au niveau de la racine, cela peut poser des problèmes. Donc, ce que nous devons avoir, c'est de meilleures définitions pour les collisions de noms, mieux expliquer cela, ce phénomène, et observer donc comment on quantifie ces collisions, comment on prend en compte les risques, comment on détermine ces collisions et comment on peut les limiter. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous, parce que cela a été créé comme un projet très important. Nous avons une période de commentaires publics à ce sujet. Nous faisons beaucoup de nouvelles choses. Et je crois qu'on va passer au transparent suivant pour bien vous expliquer la situation concernant les collisions de noms. Donc, il y a Corp Home et Mail, qui sont des chaînes, donc il y a besoin d'une résolution. C'est pas seulement ces trois chaînes, Corp, Home et Mail, mais on a la possibilité d'avoir d'autres collisions. Donc, nous avons maintenant un corpus d'informations qui existe pour nous, provenant de la dernière série des GTLD, au niveau de la visibilité, qui s'est accrue à la suite de cette dernière série des GTLD. Donc, on essaye de trouver des paramètres pour mesurer cela, pour classifier ces problèmes et donc les gérer, pour faire un travail de limitation des risques, de collision, voir et analyser toutes les chaînes qui existent et qui posent problème. Alors, ces derniers mois, la commission administrative de ESSAC s'est réunie, donc on a travaillé avec des personnes qui avaient beaucoup d'expérience, on a un groupe de travail avec pratiquement la moitié de l'effectif de ESSAC qui travaille à cela. Et nous avons donc demandé des commentaires publics avec des propositions préliminaires. On n'a pas un consensus total à ESSAC là-dessus, mais on demande des commentaires publics pour une première fois pour que la communauté indique ce qu'elle pense sur trois études pour obtenir des informations, pour que les personnes puissent fournir des informations, pour être inclusifs, pas seulement ESSAC qui fait ce travail, mais plus d'experts, et des personnes qui ont un intérêt certain pour ces problèmes et pour la résolution de ces problèmes avec les données, les collisions de noms, Donc c'est une analyse des causes sous-jacentes et profondes. Pourquoi on a ces problèmes? À cause des logiciels, à cause des configurations, à cause d'autres facteurs, éventuellement, on ne sait pas. Les astres, peut-être. Donc, trouver les causes profondes des problèmes, quantifier des méthodologies pour gérer ces problèmes, pour les limiter, pour voir comment vraiment on peut s'y atteler. S'il y a une nouvelle série, donc on a besoin de ces paramètres pour prendre des décisions au niveau des chaînes. Donc je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique et concret pour la prochaine série que le travail qu'on avait fait auparavant. Donc là, ça devient de plus en plus intéressant. Nous allons avoir une séance demain, une séance intercommunautaire qui va nous permettre de rentrer en détail dans ces problèmes avec la participation de la communauté de l'ICANN au sens large. Obtenir donc des données de personnes qui ont des données sur des résolutions avec des ISP, avec des serveurs, des prestataires de services Internet. Cela va vous permettre de mieux participer avec une liste de diffusion très large pour vraiment faire ce travail de collaboration d'une manière très publique entre SAC et le reste de la communauté, donc avoir vraiment la participation de nombreux experts qui sont présents et disponibles dans la communauté. Nous aurons également mardi matin un groupe de travail ouvert pour toute personne qui s'y intéresse, qui veut venir travailler avec nous. Vraiment, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est sur un projet très complexe et très vaste, avoir plus de soutien. On a travaillé avec le conseil d'administration, on a travaillé au niveau de la gestion, c'est un petit peu nouveau pour nous, donc on a beaucoup de questions sur la meilleure manière de procéder, donc on a besoin un peu de soutien et de conseils, et nous aurons une série d'ateliers sur les 2 ans à venir, sur toutes ces études, et je vois que quelqu'un veut poser une question sur ma droite, donc je vais donner la parole à cette personne. C'est une question ? Donc c'est Olivier ou c'est Olivier qui a une question ? Olivier Crépin-Leblond, oui. Oui, on ne veut pas lire votre nom. Donc c'est plus tard, hein, quand vous allez ouvrir cela. Non, c'est sur ce sujet ? Oui, allez-y, allez-y. Olivier Crépin-Leblond, sur NCAP. Vous avez une question sur NCAP, oui. Merci de nous présenter ce projet. Vous pensez le conclure quand, ce projet NCAP? C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup depuis de nombreuses années. C'est une longue historique. SAC a donné déjà des conseils là-dessus et ça a été ignoré un petit peu par le conseil d'administration et ALAC. Oh, je crois que c'est à Durban que l'ALAC soutenait donc SAC pour qu'il y ait une résolution sur le NCAP. Et vraiment, ces chaînes étaient presque allouées. Donc, dites-moi si j'ai raison, mais je crois que l'ICANN a offert pour .mail, .corp et .org, il y a eu véritablement un remboursement des frais. Donc, est-ce qu'il y a toujours un problème qui se pose à la suite de ce remboursement sur ces... Oui, je ne veux pas rentrer dans les détails financiers. C'est le conseil d'administration qui s'occupe de cela. Nous, c'est seulement technique. Mais je noterai que la situation actuelle, avec ces conflits qui existent et ces applications qui ont posé problème, donc... Pour .home.corp, on analyse toujours la situation. Est-ce que ces chaînes doivent être utilisées ou pas? Donc, SAC est très séparé des décisions du conseil d'administration. Donc, j'ai négligé de faire cela. Et donc, il va y avoir des rapports intérimaires qui vont donc analysé ces études, mais en fin de compte, on aura des résultats et des recommandations pour répondre aux questions du conseil d'administration avec un rapport final répondant à toutes les questions. Et ce projet, donc avec commentaire public, est prévu. Donc on essaye de couvrir tous les points et donc de travailler de très près avec les décisions du conseil d'administration et aider donc le conseil d'administration à résoudre ces problèmes. Julie Hammer ? Oui, pour rebondir là-dessus, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un cadre de travail par lequel le conseil d'administration pourra prendre des décisions et juger donc sur des chaînes qui seraient sujettes à des collisions et évaluer donc cette situation par rapport aux chaînes et donc par rapport à une délégation ou non de ces chaînes. Ça, des risques techniques qui existent en déléguant ces chaînes. Et donc le conseil d'administration pendant les décisions non techniques, on leur donne un cadre de travail, un cadre de référence, en leur expliquant les problèmes possibles de collision qui existent avec l'utilisation de ces chaînes. On essaie d'utiliser des termes simples pour qu'ils puissent décider. Oui, c'est l'idée, c'est le concept que nous utilisons. Donc nous allons maintenant passer à la section suivante.
Donc c'est un domaine dans lequel nous avons... Et c'est un euphémisme pour OWIS, donc l'évolution du service d'annuaire de données d'enregistrement. Hein. Nous avons travaillé sur différentes formes et il s'agit d'un des trois domaines dans lesquels nous pensons que nous avons du travail à faire pour participer aux différents débats qui ont lieu actuellement. Nous n'allons pas beaucoup parler du réglementation générale concernant la protection de données, le GDPR. Il s'agit d'un thème politique, mais au niveau de la stabilité, au niveau technique, nous pouvons offrir un peu d'aide et quelques conseils. Et donc, par rapport aux utilisations malveillantes et des données. Il y a ici quelques conseils que nous pouvons donner pour affronter différents types d'attaques, comme le phishing et le hameçonnage. Hein. Donc, nous allons analyser différentes possibilités qui pourraient affecter la sécurité et la stabilité. Et nous voulons être capables d'affronter ces problèmes de façon à ce qu'ils n'atteignent pas un niveau supérieur. Et du point de vue technique, et comment est-ce que l'on peut mettre en place des systèmes de meilleures pratiques et mettre en œuvre des accès contrôlés, ce type de choses. Hein. Donc, nous sommes en train d'analyser un peu ces secteurs dans lesquels nous avons une certaine expertise ou une capacité à faire des études pour donner des conseils. Et si vous avez des préoccupations ou des questions à nous poser sur cela, ou si vous avez des questions donc, sur ce que nous venons d'aborder ou ce dernier problème, s'il vous plaît, dites-le-moi avant que je continue. Alan Greenberg au micro. Bien. Alors, je pense que certaines des questions les plus compliquées ne sont pas les questions techniques, justement. Hein. Quand on parle, par exemple, de l'application dans le domaine des forces de l'ordre, comment est-ce que vous travaillez et comment les forces de l'ordre peuvent travailler entre les différentes juridictions? Est-ce qu'on peut avoir des accords bilatéraux qui nous permettant de travailler avec une base de données centrale? Et comment est-ce que, finalement, dans quelle mesure le problème technique va freiner le problème politique et vice-versa? Je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont surgir. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous pensons que le service de l'ordre va devoir affronter ce type de problème. Il y a une série de choses, si vous voulez unir cela au troisième point, parce qu'on peut unir le premier point et le troisième point, c'est-à-dire l'accès contrôlé aux données d'enregistrement. Mais la question de la juridiction ne nous concerne pas. Ce n'est pas le problème de ces sacs. Nous, ce que nous voulons, c'est que les services de l'ordre puissent faire quelque chose et puissent s'occuper des personnes qui mettent en œuvre des actions malveillantes, en tout cas. Bien. Alors, maintenant, Olivier Crépin-Leblond, une question rapide sur ce point-là, puisque vous appartenez à la communauté de cyberdélit, cybersécurité, lutte contre le cyberdélit. Est-ce que vous connaissez la proportion entre acteurs privés par rapport aux agences de forces de l'ordre? Est-ce qu'on peut parler de 99% des participants qui sont les forces de l'ordre et cela affecterait seulement 1%? Je dirais que c'est plutôt le contraire. Hein? Pas 99 pour 1, mais 99% contre 10%. Hein? Ce n'est pas une position de SAC, mais je peux vous dire cela. Je viens de Panama où nous avons eu une réunion avec ce type d'acteurs, hein, et avec les forces de l'ordre. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Bien, publication récente. Voilà le travail que nous avons fait avec le nouveau régime. Nous aurons de nouveaux domaines dans lesquels nous allons devoir travailler. Nous faisons beaucoup de travail par échange, par correspondance. Nous répondons à des demandes de commentaires particulières, à des commentaires publics. Nous utilisons un nouveau système de documents qui est simple, SSAC, avec l'année et le numéro du document. Donc le premier de cette série et le premier, celui qui est en haut de la liste. Donc, nous allons présenter un travail aux commentaires publics sur ces thèmes que vous voyez sur l'écran. Si vous avez des commentaires, je serai ravie de les entendre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait des commentaires sur la révision de NOMCOM, et c'est quelque chose que je vous encourage à regarder. Il y a certaines préoccupations concernant la façon dont la communauté en général considère ce processus, la façon dont nous décidons qui vont être les membres de ALAC et d'autres organisations. Hein, ce sont des processus qui sont transparents, qui fonctionnent donc depuis longtemps comme ça. Et nous sommes au niveau technique, mais nous voulons aussi être sûrs qu'il y a des compétences techniques au niveau du conseil. Et donc, nous essayons de travailler, d'aider et de ensuite mettre en œuvre certaines choses. Donc, récemment, nous avons soumis une série de conseils, voilà, que vous voyez sur l'écran. Bien. Olivier Crépin-Leblond, merci beaucoup. Bien. Vous êtes un ingénieur, donc je voulais vous poser une question concernant SSAC et le point WWWNN. Je sais que c'est un nouveau système pour les commentaires sur les problèmes administratifs. Comment est-ce que vous établissez une limite ici dans vos responsabilités, puisque ce n'est pas un problème de SSR et finalement vous étiez destiné à travailler dans ce domaine du SSR? Julie Hammer au micro. Ce que SSAC souhaite faire, c'est dans la série du SSC, nous avons constaté que Il y a eu plusieurs problèmes non techniques appartenant à la communauté dans une série de systèmes qui posaient des problèmes et qui ont commencé à poser des problèmes dans d'autres domaines non techniques, hein, comme les commentaires pour le CCWG, responsabilité, etc. Donc on a pensé qu'il faut arrêter de faire cela. Mais en tant que... Nous avons un principe, ce que nous essayons de faire, c'est... Parce qu'il y a d'autres choses qui ont lieu dans la communauté qui vont avoir un impact sur la façon dont la sécurité est assurée par ICANN et la façon dont SSAC peut, est capable de travailler dans la communauté. Donc, certains membres du personnel ont pensé que si le résultat est ceci, SSAC va être concerné puisque SSAC fait partie de la communauté. Donc, ce que SSAC ne veut pas cesser de faire, c'est de faire des commentaires sur tout ce qui a lieu, que cela ait un impact sur la sécurité ou pas. Mais nous voulons surtout faire des commentaires sur ce qui a un impact sur nous. Vous avez vu que ALAC représente un petit peu un sujet, ou aborde des sujets difficiles. Rod au micro, oui, ça fait partie de l'évolution d'ICANN. Hein. Nous appartenons à cette grande communauté qui prend des décisions. Et donc, nous ne voulons pas être séparés de cette communauté. Bien. Nous avons une série de publications faites récemment. À SAC 99, porté sur l'IDN, sur les directives dans ce domaine. Il y a eu des recommandations qui ont été faites qui correspondaient à notre travail d'ingénieur. Mais bon, s'il y a des questions là-dessus, je peux vous mettre en contact avec Patrick pour qu'il vous réponde à vos questions. Bien. Prochaine diapo. Donc, cela était SAC 101. Cela abordait des questions de la zone racine et la façon dont on pouvait développer cette zone racine. Nous avons donné des recommandations que nous avions déjà données au préalable dans d'autres documents parce que ce qui compte ici, à mesure que la zone est développée, c'est d'avoir un système qui nous permet de faire un suivi, de contrôler pour qu'il n'y ait pas de problème. Il faut être sûr que l'on n'aura pas un problème avant de mettre les choses en place. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Et peu importe, il ne s'agit pas d'un nombre en particulier. Quel que soit le nombre, ça n'a pas grande importance. C'est le taux de changement, hein, le rythme du changement qui compte. Hein, et ce n'est pas seulement d'un point de vue technique ou d'infrastructure, mais au niveau de l'administration de toutes ces données, de tout ce matériel. Hein. Il faut être prudent. Hein, et en général, je dirais qu'il faut essayer de faire certaines études, certaines recherches, pour voir comment on peut faire cela dans le long terme et pour travailler sur une zone racine beaucoup plus grande. Est-ce qu'il y a des questions? Hadia? Maintenant, le nombre de domaines ajoutés à la zone racine, je ne pense pas que cela affecte la stabilité. J'ai fait des études d'ingénieur moi aussi. Mais mon autre question est liée au rythme du changement. Comment est-ce que vous déterminez le rythme approprié qui ne risque pas d'affecter la stabilité, justement? Bien. 6.4. Nous avons étudié ce problème dans un article dont le numéro est 6.4. En tout cas, il faut savoir quels sont les indicateurs. Il faut utiliser les bons indicateurs. Et on peut finalement avoir des zones très grandes qui se trouvent en dessous de la racine. Mais nous ne donnons pas... Voyons, je vais donner la parole à Patrick. Patrick Fallström de SSAC. C'est important de lire tout cela dans son ensemble quand on parle de l'obligation de maintenir la zone racine. On parle du rythme de changement et du fait que pendant les changements, pendant l'addition, il est important de contrôler ce qui a lieu, ce qui se passe. Et si on voit des signaux de problème, hein, il faut avoir un plan pour enlever la délégation de quelque chose qu'on pensait ajouter, hein, quand on ajoute quelque chose trop vite. Donc, la capacité d'adopter un certain rythme de changement, hein, est plus facile à discuter que le nombre de TLD. Mais qu'est-ce qui serait trop ou trop vite ? Patrick, au micro, de nouveau, il faut mettre en œuvre un système qui surveille ce qui se fait et qui détecte lorsque on a des limites inconnues qui sont dépassées et il faut avoir un plan, hein, pour affronter ce type de problème. Si vous prenez un processus, hein, que SSAC a fait vraiment la meilleure façon possible, c'est le roulement de clés. On avait fait un plan très détaillé avec 12 étapes différentes. Chaque étape avait été analysée. On avait analysé toute la situation. On a décidé de le mettre en œuvre ou d'attendre un petit peu plus tôt. Je crois qu'on était à l'étape 7. Ils ont surveillé. Ils avaient des indicateurs. Et maintenant, on discute la possibilité d'avancer, hein, encore. Hein. Donc voilà, ce n'est pas étrange. Hein. On ne sait pas très bien où se trouve ce type de limite. Hadja, si on compare aux clés de roulement de clés, parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, je pense que ce n'est pas une bonne comparaison. Mais si on ajoute des TLD, et ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été fait déjà auparavant, donc ajouter des TLD. Et donc, actuellement, vous devriez être capable de savoir ce qui va se passer, ce qui ne risque pas de se passer. Je pense que rien de nouveau, de surprenant peut arriver ou quelque chose que vous n'aurez pas vu auparavant. Il n'y a aucune raison pour cela. Patrick, nous pouvons continuer cette discussion en tête à tête, parce que tous les rapports que nous avons écrits disent explicitement qu'on ne peut pas avoir un chiffre. C'est le taux de changement. Il faut contrôler ce qui a lieu. Voilà. C'est comme ça que l'on fonctionne. Rod au micro. Bien, c'est notre dernière diapositive. Je sais qu'il y a des questions concernant le clé de roulement de clé. Alan au micro. Nous avons deux personnes. Nous avons Christopher, nous avons John. Nous avons un timer d'une minute. Nous avons nos invités qui sont là déjà, donc il nous faut finir dans 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Merci, Alain. Juste un petit commentaire concernant les informations, hein, données par nos collègues. On pense que le prochain cycle devrait être basé sur des groupes de nouvelles candidatures. Du point de vue politique, hein, que ce soit géographique, de la communauté ou des marques, je pense qu'il y a une certaine synergie de portée entre les idées politiques, de la façon dont je décris, cela est décrit. Et je pense que vous pouvez contrôler la façon dont cela évolue. John l'a prise au micro. Je voulais remercier Julie pour donc avoir envoyé les recommandations au Conseil concernant le roulement de clés. Le Conseil reçoit des recommandations et demande à ICANN.org de les mettre en œuvre, mais cela ne montre pas le statut de ces mises en œuvre. Et les deux conseils du SSAC sont assez similaires, ce qui veut dire que le Conseil 63 et n'était pas complet, il a fallu refaire des instructions pour demander au Conseil de faire quelque chose. Donc, comment est-ce que ce Conseil a été mis en œuvre à ICANN.org? Est-ce qu'on le sait? C'est une discussion que nous allons pouvoir poursuivre, si vous voulez. Julie Hammer, c'est une bonne question. Je pense que le principal problème, ce dont vous parlez ici, c'est quelle est la préoccupation actuellement? Quel est le point le plus important? Je dirais que les membres du SESAC peuvent en parler. Je vais encadrer un petit peu cette discussion. Je pense que SESAC ne peut pas parvenir à un consensus là-dessus. Je peux parler en mon nom seulement. Je sais que ICANN a collecté des données du serveur Racine. C'est un nouveau mécanisme. Et ça a donné lieu à des résultats qui n'étaient pas clairs pour nous. Et du coup, ICANN a pris une décision très prudente qui était d'arrêter ce processus de façon à ce qu'on ait le temps d'essayer de voir quels étaient les signaux qui pouvaient exister dans le domaine des données, etc. Donc, le personnel de l'ICANN a présenté cela et il y a ici différents types de problèmes du point de vue de la mise en œuvre, parce que cela met en œuvre, les différentes implémentations qui existent ne sont pas exactes. Cela a été fait très rapidement parce qu'il y avait un chronogramme. Et donc, à cause de cela, on a eu ensuite ce type de problème. Et il n'y a pas de corrélation directe entre les nombres, les ratios, les pourcentages qui découlent de ces données. Et cela est très clair parce que cela ne cartographie pas l'expérience des utilisateurs finaux. Cela cartographie le système de la zone racine et c'est très complexe avec les résolveurs, etc. Et cela ne représente pas l'expérience de l'utilisateur final. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est si je devais donner mon évaluation personnelle du consensus technique, de ce qu'il est au sein de SSAC et en général, c'est que il y a ici une situation dans laquelle il n'y a pas de signaux clairs, selon lequel il y aurait des risques clairs pour faire le roulement de clés. Et l'autre chose qui est claire actuellement, c'est qu'il y a un risque substantiel de ne pas faire ce roulement de clés parce que lorsqu'on a un système de chiffrement et qu'on n'a pas d'expérience de roulement de clés, il y a un risque. Cela peut affecter les utilisateurs. Donc, tout cela doit donner lieu à une évaluation de risque correcte de façon à être sûr si cela est sûr, si cela est dangereux, Et ensuite, ici, nous devons gérer la façon dont tout cela est signé et il nous faut savoir comment fonctionne le roulement de clés, quels peuvent être les impacts existants dans ce domaine. Donc, je crois que ça, c'est la décision que le Conseil doit prendre.
Donc, on a dépassé un petit peu le temps imparti et nous avons d'autres personnes qui vont prendre la parole. On va rencontrer David Conrad cette semaine. Donc, merci beaucoup. Désolé d'arrêter un petit peu abruptement cette séance, mais j'aimerais vous remercier beaucoup. Alan Greenberg, nous allons reprendre notre séance. Nous avons Teresa Swinehart qui va nous parler de GDPR et il faut absolument qu'elle parte dans 40 minutes. je dois partir d'ici 2h45. 25 minutes, excusez-moi. Donc, tout d'abord, merci d'avoir changé un petit peu vos horaires pour me permettre de m'exprimer. Donc, je vais faire un petit résumé de la situation avec le GDPR et ensuite ouvrir pour vos questions, pour répondre à vos questions. Donc, comme vous le savez, récemment, nous avons posté ce qu'on appelle le modèle Calzone sur la base des informations que nous avons obtenues, la proposition intérimaire. Donc, il y a un document qui existe, qui résume un petit peu la situation. Et il y a des points de vue un petit peu différents dans la communauté. Il y a de cela quelques jours, nous avons posté également ce qu'on appelle le cookbook, le livre de cuisine, avec plus d'aspects détaillés sur chacun de ces modèles. Donc tout est posté, tout est affiché. Nous avons également notre blog qui nous permet de mettre à jour et d'informer la communauté. Tout le temps que nous avons passé donc à développer ces solutions pour le GDPR, mais je vais donner la parole à John et ensuite on pourra répondre à vos questions. Donc, donnons la parole à John. Donc, ces documents dont on vous parlait, c'est le modèle que nous avons posté vendredi ou la semaine dernière, ainsi que donc ce n'est pas, c'est les différents modèles, une comparaison des différents modèles sur un diagramme avec les éléments clés, les différents concepts, les différentes approches. Et on a parlé de ce livre de cuisine puisqu'on a parlé d'un calzone. Pour vous indiquer un petit peu le raisonnement au niveau juridique, au niveau des informations collectées de la part de la communauté, pourquoi est-ce que l'on a choisi ces différents éléments pour notre modèle? Donc, on peut vous présenter le modèle si vous le désirez, mais on n'a que très peu de temps. Hein. Est-ce que vous voulez répondre à nos... Donc, on va poser des questions en moins de 2 minutes. On va utiliser notre chronomètre. Donc, nous avons eu un débat sur le GDPR. On a beaucoup parlé, c'était assez agité. Et on a fait un tour de table et plusieurs personnes nous disaient que, et je paraphraserais, que notre modèle ne prend pas en compte le raisonnement sur la collecte de données, et ça, on ne va pas être en mesure de collecter ce type de données, nous n'avons pas de justification pour permettre à telle ou telle personne de collecter des données. Comment est-ce que l'on va avoir un niveau suffisant d'assurance pour s'assurer qu'après toutes ces dépenses, on va avoir un modèle qui va être accepté? Donc, John au micro, donc, oui, excellent point. Permettez-moi de préciser. Donc, pourquoi est-ce que vendredi, on a donné ce livre de cuisine pour donc répondre au DPA lorsque l'on sélectionne ce modèle? Et la justification de ce modèle, ces niveaux d'information. Donc, le premier niveau d'information qui peut être partagé. Donc, une partie technique qui nous a dit que si nous fournissions cela d'ici vendredi dernier, ils seraient en mesure de prendre cela en compte dans leur réunion de la semaine, cette semaine, et revenir vers nous le 26 mars, vers la semaine du 26 mars. Il y a le groupe de Berlin qui va rédiger un document aussi sur ces points. Il va y avoir donc plusieurs points de vue. On va une nouvelle fois se réunir durant la semaine du 26 avec ce groupe, le groupe de Berlin, et à ce moment-là obtenir des indications sur des éléments éventuellement manquants ou devant éventuellement être modifiés. Nous passerons ensuite à la création d'un modèle cohérent par rapport au conseil que nous avons reçu et sur la base du calendrier, eh bien, nous prendrons en compte la partie accréditation, comment est-ce que l'on obtient l'accès à des parties non publiées, donc les données WHOIS n'étant pas publiques. On va parler à la communauté et essayer d'obtenir des conseils au niveau juridique. Est-ce que l'on répond bien aux lois? Est-ce que les critères juridiques sont respectés? Et ensuite, nous pourrons mettre en œuvre ce modèle. Donc, je crois que ce sera la possibilité pour eux, nous et pour eux de travailler avec les bureaux d'enregistrement au niveau contractuel et de poursuivre le débat. Et ce faisant, de cette manière, nous serons en mesure d'ajuster le modèle qui sera ainsi en conformité avec la loi. Voilà comment nous comptons procéder. Merci beaucoup, Oli. Oui, Oli Reich. Le modèle d'accréditation, comment voulez-vous le développer? Eh bien, nous avons fourni au GAC un document sur les principes inclus jusqu'à présent et demandé des conseils sur deux fronts, sur le front de désigner les parties forces de l'ordre qui sont tout à fait légitimes au niveau du gouvernement. Donc, les agences gouvernementales également qui doivent avoir accès aux informations du WHOIS non public, et donc nous avons besoin d'un code de conduite pour les parties non gouvernementales. Donc le GAC a un certain type d'expertise au niveau de la justification s'il y a donc des plaintes contre les gouvernements. Donc les entités non gouvernementales ont essayé d'obtenir de leur part d'entités qui comprennent bien la situation par rapport aux données, d'avoir donc ces codes de conduite pour l'accès aux données, voir s'il y a des violations éventuelles. Holly Reich, j'aimerais poursuivre, si je comprends bien. Donc, les entités des consommateurs, vous pensez à cela, les groupes de consommateurs? Oui, ça dépend de quel niveau vous parlez, pour clarifier. Holly Reich, par rapport à qui veut avoir accès aux données? Je sais qu'il y a les autorités de régulation qui existent, les personnes qui s'occupent d'utilisation malveillante du DNS. Vous parlez du point de vue gouvernemental, du côté gouvernemental, c'est ça, hein? Oui. Est-ce que il y a d'autres entités? Parler de quelles autres entités? Donc, on ne prétend pas, John O'Micro, d'avoir l'expertise sur l'utilisation de toutes les données. C'est pour cela que l'on demande au GAC d'avoir plus d'informations pour collecter ces informations auprès de chaque gouvernement, pour les entités des forces de l'ordre, pour les agences gouvernementales qui vont demander accès aux données. Tijani. Merci beaucoup. Donc, je parlais du modèle tel qu'il existe actuellement. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Tout d'abord, les données collectées. Nous avons toujours le WHOIS détaillé. Donc, le maximum de données que nous pouvons collecter. Le GDPR, c'est minimiser les données collectées. Et autre chose, ces données sont dans trois emplacements. Au niveau des registres, au niveau des parties tierces et au niveau des bureaux d'enregistrement. Donc, lorsque vous avez de plus en plus d'emplacements où sont emmagasinées ces données, je crois que cela pose problème. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des données publiques. Je vais m'arrêter là et peut-être que j'interviendrai tout à l'heure. Oui, je vais essayer de répondre à cela. Oui, soyez bref, s'il vous plaît, dans vos réponses. Oui, l'ensemble de données que nous collectons, John Omicro, dans le modèle Calzone, c'est en effet le modèle WHOIS détaillé. On voit ce que l'on reçoit de la communauté et on pose la question pourquoi. Il y a plusieurs champs qui n'étaient pas utilisés dans nos modèles précédents. Certains de ces champs ne pouvaient pas être collectés et beaucoup de personnes nous ont dit que ces champs n'étant pas utilisés dans des sites normaux étaient utilisés par des personnes qui luttaient contre les utilisations malveillantes et les abus. Donc c'est une question à long terme pour le processus des politiques. Plutôt que de choisir d'éliminer différents champs de données. Donc, je crois que lorsque vous obtenez Alan Omicro, les personnes disent oui, on accepte votre logique ou pas. Donc, les données qui sont collectées seront transférées des bureaux d'enregistrement au registre qui ont également des données WHOIS sur leur base de données. Et donc, lorsque les données sont... Il y a un entiercement des données, ça c'est avec des contrats ICANN. Et c'est une question de conformité par rapport aux contrats qui existent entre les différentes parties, les bureaux d'enregistrement et ainsi de suite. Et... il y a des obligations de la part des registres et des bureaux d'enregistrement qui doivent garder des données privées. Donc ça dépend des différentes lois qui existent. Et je crois que dans le GDPR, il y aura toujours une confidentialité des données qui sera assurée. Mais et le concept du WHOIS détaillé, donc thick and thin, détaillé ou pas, qu'en est-il ? C'est une question de Tijani. John, je crois que c'est un résumé, en effet, de points très larges. C'est difficile de répondre à cela maintenant. Alan, donc on ne peut pas, en effet, donc poser plus d'une question, s'il vous plaît. Je vais poser une question très rapide, Alan Kainberg. J'ai l'impression, de par le passé, que les forces de l'ordre et les départements de communication qui gèrent l'Internet, ce n'étaient pas les mêmes parties du gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé? Est-ce qu'il y a une communication donc entre les forces de l'ordre et d'autres entités gouvernementales? Donc, ce n'est pas à cause de WHOIS. Il y a beaucoup de secteurs industriels qui ont des problèmes par rapport au respect de la vie privée et je crois qu'on va obtenir beaucoup de conseils parce que il y a beaucoup de secteurs industriels où il y a des questions de conformité qui se posent. Donc il y a une recherche de plans des plans d'action pour gérer donc ces questions de respect de la vie privée. Donc c'est bien de savoir qu'il y a différentes parties du gouvernement qui communiquent entre elles, c'est intéressant. Hadia Minyaoui, commentaire rapide pour rebondir sur ce qu'a dit Tijani. Le GDPR, c'est minimiser la collecte de données. Et ma question est la suivante. Au niveau du processus d'accréditation, si je comprends bien, les organisations, qu'elles soient gouvernementales ou pas, sont des organisations légitimes qui ont un accès accrédité. Et cet accès sera limité dans le temps. Pour un an, avec expiration, il faut avoir une nouvelle autorisation. Ou est-ce que c'est une accréditation sans limite de temps? Donc ça, c'est des questions détaillées, excellentes. On n'a pas encore les réponses à cela, John Omicro. travaille avec le GAC et avec d'autres parties de la communauté pour ces programmes d'accréditation. Donc, excellente question. Il ne faut pas les oublier, c'est très bien. Christopher. Merci beaucoup. J'ai plusieurs commentaires, mais je vais me limiter sur un seul. Lorsque vous avez parlé d'accréditation d'agences non gouvernementales pour un accès régulé, vous parlez des agences sur les marques commerciales, par exemple, qui ont les chercheurs contre les abus, utilisation malveillante, les personnes défendant les propriétés intellectuelles des marques de commerce. Il y en a d'autres. Teresa, la recherche, la cyber-recherche sur la criminalité, cybercriminalité. Christopher, oui, ça peut être problématique lorsque l'on rentre dans les détails, tout particulièrement les titulaires des noms de domaine. Pour les titulaires des noms de domaine, ils ne veulent pas qu'on utilise les données pour cela. Oui, vous avez raison, John O'Micro, mais cela doit être permis éventuellement par la loi. Sean ? Oui, merci. Donc, la section 7 du document qui parle du modèle par lui-même, est-ce qu'il y a l'intention de présenter cela, ce modèle, aux utilisateurs finaux pour qu'il soit plus compréhensible et plus simple, donc peut-être avec des graphiques, avec des diagrammes qui permettraient de mieux communiquer ce modèle aux utilisateurs finaux. Teresa Swinert, vous dites point 7 de ce document, c'est bien cela? Je parle du rapport publié. Oui, d'accord. Alors, récemment, nous avons publié ce graphique en ce qui concerne notre modèle. Et une fois que ce sera plus clair, s'il y a des aspects visuels qui peuvent être utiles pour que ce soit plus compréhensible, eh bien, nous les présenterons. John ? La prise ? Donc, vous parlez des différentes parties avec qui vous avez communiqué, l'accès de ces personnes. Ils vont être en conformité avec le GDPR, parce que dans le cadre du GDPR, ils vont traiter les données. Est-ce que les contrôleurs ont une assurance qu'il y ait bien cette conformité par rapport au GDPR? Oui, c'est un bon point. Ça dépend donc de ce modèle d'accréditation, de l'utilisation des données. On a parlé de ce code de conduite. C'est tout à fait ce qui doit être clairement au sein du code de conduite pour la possibilité de définir l'accès à ces données. Holly. Reich. Je rebondis. Code de conduite. Premièrement, qu'est-ce que ça va couvrir? Deuxièmement, comment va-t-il être conçu? John, oui, vous posez des questions difficiles. On n'a pas encore les réponses à cela. Donc, j'apprécie beaucoup le fait que vous posiez ces questions difficiles. Et j'aimerais que vous participiez donc à la conception même de ce code de conduite. Nous allons passer par différentes phases. Et vraiment, votre communauté peut beaucoup apporter. John Laprise faisait référence à cela. On veut être très prudent. On veut être en conformité avec la loi. L'ICANN, contrôle des données. On peut le voir comme cela. C'est pour ça que l'utilisation de ces données doit être contrôlée et que toutes les parties prenantes dans ce WHOIS non public jouent un rôle important. il y a des questions qui sont encore en lice. Et est-ce que, au niveau du DPE, est-ce qu'il va y avoir un audit? Est-ce qu'il va y avoir donc une vérification? En effet, ce code de conduite également. Vous avez besoin d'aide, Uli Reich. On a toujours besoin d'aide. Teresa. Oui, nous avons l'annexe numéro 2 du document Calzone. Vous l'avez ici même. Il y a plus de questions à ce sujet. Tijani.
Tijani au micro. Une autre question sur la collecte de données. Que se passe-t-il en ce qui concerne le consentement? Comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre un système de consentement? Est-ce que vous pensez que l'objectif que nous avons défini maintenant est l'objectif correct? Est-ce que vous ne pensez pas que il y a peut-être des choses qui manquent encore, qui sont absentes? John, vous ne serez pas surpris de savoir que dans chaque salle dans laquelle nous nous présentons, il y a des points de vue différents. Certains pensent que nous n'utilisons pas la forme originale de WHOIS. D'autres pensent que nous ne devrions pas publier quoi que ce soit et qu'il ne faudrait pas collecter de données. Voilà. Donc, il y a vraiment une grande quantité de points de vue. Ce document que Teresa vous a montré et montre cela. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible de ce qui nous paraît être l'objectif légitime de ces données collectées. Seulement ces données vont être utilisées et seulement le minimum va être publié. Il y a un aspect très controversé. Si vous regardez la proposition actuelle, il y a 5 différentes zones avec des visions très différentes de la communauté. Et d'après les discussions que nous avons eues, et par exemple, en ce qui concerne la collecte d'emails pour les bureaux d'enregistrement, nous proposons une approche moyenne, à mi-chemin. Nous proposons qu'il y ait des emails anonymes que l'on puisse contacter le bureau d'enregistrement pour avoir un contenu, etc. Donc, certains pensent que ce n'est pas une bonne approche et d'autres pensent que c'est une approche. Et que ce n'est pas une bonne approche non plus, qu'il faut rester dans l'anonymité, laisser tout cela, garder tout cela anonyme. Donc, nous essayons de trouver une possibilité, une approche à mi-chemin entre tous ces points, donc, et trouver quelque chose qui fonctionne. Maintenant, on essaye aussi de voir, d'obtenir certains conseils pour continuer à travailler. Alan Greenberg, au micro, je pense que certaines personnes ici pensent que le service anonyme, c'est bien, mais qui va payer? Bien, je reprends la queue. Alan Greenberg au micro. Dans le monde réel, pour les forces de l'ordre, s'ils veulent accéder à certaines données, il faut qu'ils passent par le service juridique. Donc, nous n'allons pas établir les règles, mais il va y avoir une manière de s'assurer que les cyber-recherches en qui nous avons confiance peuvent accéder à des informations dans d'autres pays, mais que les forces de l'ordre en qui nous n'avons pas vraiment confiance peuvent aussi avoir accès à ces données. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. J'en ai au micro. Je pense que vous abordez ici un point difficile qui représente de gros défis. Nous voulons être capables d'établir certaines directives pour les gouvernements en leur disant vous pouvez, telle personne, tel groupe peut accéder à telle donnée. Olivier Crépin-Leblond. Donc, d'abord, à propos de ce nom, Calzone et Alan Greenberg, la queue est close après Olivier. Bien. Donc, Olivier Crépin-Leblond, Calzone. Une mise en œuvre de Calzone ou une recette de Calzone est différente en fonction du pays. Hein, mais bon, Je vois qu'on se focalise principalement sur Hui, sur les services d'enregistrement de données. Est-ce que quelqu'un est aussi en train d'essayer d'analyser la conformité aux réglementations générales concernant la protection de données, le GDPR? Et est-ce qu'il y a une conformité dans ce domaine du RDS? Oui, l'année dernière, nous avons nommé une personne responsable de la collecte de données, de l'organisation de la collecte de données pour faire des recherches dans tous les systèmes que nous avons trouvés dans toute l'organisation. Et je pense qu'il y a énormément de pages collectées là-dessus. Et ce sont, on parle de milliers de pages. Nous avons contacté une série de cabinets juridiques. Nous avons travaillé avec eux. Nous avons commencé à travailler avec les différents départements au sein de l'ICANN, les groupes communautaires. Nous avons reçu des suggestions, des propositions. Mais il va falloir synthétiser un petit peu. Il y a certaines choses qui vont être supprimées, certaines choses qui vont être effacées dans la façon dont nous allons faire cette collecte de données. Donc, nous faisons une analyse approfondie et nous avons parlé à différentes entités dans le monde et ces entités seront donc conformes à partir du mois de mai. Nous sommes en train d'établir des priorités pour être sûr qu'il y ait des éléments concernant les données critiques qui pourraient être expliquées. C'est notre première approche. Et les RALO sont-ils inclus dans cette révision, demande Olivier. Est-ce qu'ils ont un MOU dans ce sens, John au micro? Je vous dirai un petit peu ce qu'il en est dans quelques temps. Alan Greenberg au micro. Je sais qu'il y a d'autres gens qui auraient aimé prendre la parole, mais John et Teresa doivent partir. Je m'excuse. Si quelqu'un d'autre, à l'exception du Conseil, nous posait ce type de questions, on ne resterait pas plus longtemps. Bien, merci. Merci, vous savez où nous trouver. Merci à tous les deux. Alan Greenberg au micro. Nous avons le dernier point de notre ordre du jour pour cette séance qui est... Et la sélection et les élections, je vais demander à Heidi de nous donner d'abord les membres de ALAC, des RALO, du leadership et les différentes fonctions pour lesquelles nous allons nommer des gens. Hein? Heidi au micro, merci beaucoup Alan. Heidi au micro, je voulais vous dire que nous avons notre page qui a été postée pour les élections et les sélections des RALO. Elle n'est pas complète encore. Nous allons développer la page des RALO individuels aussi. Mais je voulais aussi vous présenter un petit peu le programme proposé. Alors Alan, est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Alan au micro, faites-le comme vous le voulez, dans l'ordre que vous préférez. Vous avez 7 minutes. Est-ce que nous pouvons passer à la chronogramme de sélection d'ALAC? Bien. Donc, on a une journée. Donc, la proposition est de commencer les élections pour ALAC et pour les RALO. Nous allons synchroniser tout cela, comme on a décidé de le faire il y a un an. Ça a bien marché. Il est important aussi de finir avant ICANN 62 de façon à former le comité de nomination pour les personnes qui sont sélectionnées. Toutes les personnes qui vont siéger à la fin de la session de ICANN 63 à Barcelone. Comme Naralo a mis à jour ses statuts. Il y a donc une période de 30 jours qui est prévue. Donc, nous allons synchroniser tout cela à travers les RALO et ALAC pour qu'au mois d'avril, on puisse faire une annonce. À la fin du mois d'avril, le 30 avril, on va faire une annonce. Ensuite, du 30 avril au 11 mai, période de nomination. Du 18 mai, la date butoir pour les acceptations de nomination. Ensuite, nous allons joindre ces personnes pour savoir s'ils acceptent ou pas. Ensuite, si les élections sont nécessaires, il y aura des élections du 21 mai au 25 mai. Et ensuite, comme je l'ai dit, ces personnes donc commenceront à siéger à la fin de la session de la séance de conclusion de ICANN 63. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, Eduardo Micro? Je voulais seulement vous demander si ces dates que vous indiquez ici si ces dates que vous avez définies ont été consultés avec les RALO. Je pense que tous les RALO. Alain, au micro. Non. Les règles de procédure. Alain, au micro. Je crois que la question est est-ce que ce que vous proposez est en accord avec les règles existant dans les 5 RALO? Est-ce que cela répond aux et donc contraintes concernant les délai les dates. Alors, Alain, au micro toujours, les règles et appliquées l'année dernière. Les RALO avaient chacun des règles différentes dans ce domaine, mais certains RALO disaient par exemple 10 jours, d'autres disaient 10 jours ouvrables. Donc, on a pris la définition la plus lâche, la moins précise. Nous avons essayé d'appliquer tout cela aux nouvelles règles. Je pense qu'il faudrait vérifier cela, mais je pense que tout cela répond aux règles. Nous allons vérifier ensuite si cela répond vraiment à toutes les règles et les contraintes des RALO. Bien. Alors, les problèmes maintenant, appelés le problème d'acclamation, lorsqu'il y a un seul candidat, ce candidat est destiné à être le gagnant des élections. Il n'est pas nécessaire de voter, bien sûr. Donc, cela est expliqué dans les règles de différentes organisations. C'est dans les règles de ALAC, de NARALO, et je pense que c'est dans les règles de APRALO aussi. Et d'autres RALO ont des procédures par lesquelles, si quelqu'un est le seul et unique candidat, il faut quand même que l'on vote pour lui. Et c'est bien. Et tout le monde va dire d'accord. Et notre ami de l'ACRALO le sait, si on a un seul candidat et que tout le monde vote contre lui, on a un problème assez intéressant qui se pose. Donc, la réponse est, actuellement, nous n'avons pas de règles d'acclamation dans tous les RALO, de vote par acclamation dans tous les RALO. Je pense que nous avons une règle de vote par acclamation ou silence. Je pense qu'on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait un vote lorsqu'il y a un seul candidat, il me semble. Alberto. Alberto Soto. Je vais parler en espagnol. Lorsqu'il y a un seul candidat, et ce candidat doit se présenter, il doit être connu, on doit pouvoir lui poser des questions. Un vote par acclamation directe, à mon avis, ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir une convocation pour que ce candidat dise ce qu'il va faire. En tout cas, je vais en parler avec notre responsable de l'ACRALO pour voir ce qu'il en pense. Alain au micro. Dans les anciennes règles de l'ACRALO, c'était silence. Je ne sais pas si votre nouveau règlement à l'ACRALO a déjà été mis en place. Je ne pense pas qu'on va mettre en place de nouvelles règles. Umberto? Umberto Caracco au micro. Vous avez raison, Alain. Effectivement, on gardait le silence et donc, par habitude, on faisait un appel au vote. Et je crois qu'il va falloir définir cela dans les nouvelles règles de procédure. Et on va essayer de voir si on peut parvenir à un consensus pour standardiser, hein, pour utiliser les mêmes règles que tout le monde. Alan au micro. Dans les anciennes règles, dans l'ancien règlement, la pratique était de faire une enquête, un petit sondage. Il y a une différence, hein, à la Kralo. Un vote peut être pondéré. En tout cas, c'était la pratique. Hein. Prochaine question. Heidi au micro. Je ne vois personne d'autre. Donc, pour résumer ce que Umberto vient de dire, si la Kralo approuve cet aspect de vos nouvelles règles avant de commencer l'appel à nomination et... Alan Greenberg au micro. Nous sommes dans une position difficile. Si la règle change, si ce règlement change au milieu du processus d'élection, il va falloir. Nous allons avoir besoin de l'acceptation des RALO, de tous les RALO, s'il y a une possibilité que les règlements changent et s'il y a la possibilité qu'un nouveau règlement soit adopté, hein, au cours de ces élections. Il faudra faire une exception pour dire que ces règles, ce règlement ne s'applique pas à la procédure en cours, mais peut-être qu'ils devront expliquer tout cela. Il faudrait faire un petit Umberto au micro. Il n'y aura pas de nouvelles règles, d'après ce que je sais, avant un an. Hein. En tout cas, je pense que dans le processus de médiation, nous pouvons parvenir à un accord entre ceux qui assistent et l'appliquer au reste de la région. Et on pourrait appliquer un critère, si on est tous d'accord, pour ne pas affecter les autres RALO, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Je voudrais passer à un autre sujet qui est lié à cela, mais qui est différent. C'est le président d'ALAC. Il y a un processus de sélection du président d'ALAC qui va avoir lieu cette année parce que c'est mon deuxième mandat, un mandat qui est renouvelable automatiquement. Donc, peu importe si je reste ou pas, il va y avoir une procédure de sélection. Mais j'ai dit que je n'allais pas rester. Mon mandat pour le RALO d'Amérique du Nord est terminé cette année et je ne peux pas être... éligible. Je ne suis pas éligible pour être réélue, donc je ne serai pas ici à LAC comme président l'année prochaine. Je ne serai pas ici à LAC et je ne serai pas le président d'ALAC. Donc, il va y avoir une sélection du président pour ALAC. Il y a une décision qui doit être prise et c'est ma décision, mais j'aimerais en parler au groupe pour connaître votre avis. Je ne vais pas prendre de décision aujourd'hui, mais j'aimerais que vous me donniez votre avis pour savoir quand est-ce qu'on le fait. Normalement, le président sélectionne avant la réunion annuelle, la réunion générale annuelle. Sélectionne plusieurs candidats possibles. L'autre possibilité, c'est de faire cela avant la réunion du mois de juin. L'avantage serait, il y en a plusieurs, hein, mais si on veut résumer, ce serait le bénéfice serait que le président entrant saurait qu'il va être le président et pourrait entrer en contact avec moi et qu'il y ait une période de transition plus claire, plus efficace. Le mauvais côté, c'est qu'on ne sait pas qui seront les nouveaux membres de ALAC et donc ils ne sont pas éligibles pour être les présidents. Nous avons un nombre de personnes beaucoup plus étroit, beaucoup moins nombreux. Les règles disent que l'on peut sélectionner un président qui a la possibilité d'être au sein d'ALAC, par exemple. Javier est à l'extérieur de ALAC comme membre nommé par NOMCOM, et il peut être renommé par NOMCOM, il peut être renommé par les RALO. Donc, on pourrait, par exemple, nommer Javier président, sachant que s'il n'est pas là, il faudra sélectionner un nouveau président rapidement. Le règlement nous permet de faire cela. Et je vais vous donner la parole dans une minute. Hein. Donc, il y a des aspects en faveur et des aspects contre. On ne pourra pas sélectionner le président après et que les membres de l'OMCOM soient nommés. Ce sera trop tard. On n'aura pas suffisamment de temps. Donc, je ne veux pas qu'on vote cette semaine. Je ne veux pas qu'on prenne une décision aujourd'hui, mais je pense que c'est une décision qu'il va falloir bientôt prendre. J'aimerais avoir votre opinion ici ou en privé. Il nous reste quelques minutes. Si vous voulez, on peut en parler un petit peu maintenant. Tijani, allez-y. Merci, Alan. Je suis triste de savoir que vous allez quitter ALAC. La tradition au sein d'ALAC est que le président sortant sera le vice-président du nouveau président. Et c'est une transition, c'est une méthode de transition. Cette fois-ci, elle n'existera pas. Alan, au micro. C'est pourquoi je pose cette question et que je propose qu'on fasse la sélection avant. Mon plan original était de démissionner au bout de 3 ans. Mais avec la révision d'At-Large, avec la responsabilité, tout cela, je ne voulais pas le faire. Donc voilà, nous en sommes là. Je pourrais changer ma décision et renoncer à ce que Naralo me propose, mais j'étais au sein d'ALAC pendant 12 ans. Je pense que c'est le moment de commencer à changer un petit peu de domaine, de secteur. J'ai les mêmes regrets que vous, mais bon. Alberto, allez-y. Alberto Soto, je ne veux pas parler, mais Javier, il y a son tableau qui est tombé, il est en train de lever la main. Hein. Javier, allez-y. Javier Rua. Si l'on considère les différents risques qui existent, je pense qu'il faudrait faire cela le plus tôt possible. Résoudre ce problème, comme ça vous pourrez aider le prochain président.
Chaîne au micro. Donc sur la base de cette situation un petit peu exceptionnelle, je crois qu'on aurait dû revoir le calendrier des élections plutôt que de commencer au mois d'avril. On aurait peut-être pu commencer au mois de mars pour que les nouveaux membres d'ALAC soient pris en compte, même s'ils ne sont connaissent déjà les nouveaux membres de l'ALAC, même s'ils ne sont pas en fonction, que l'on puisse les prendre en compte pour la nomination du prochain président de l'ALAC. Alan Greenberg. Donc Heidi, vous avez un calendrier. Quand doit être faite la sélection, Heidi? Donc, s'il n'y a pas de nouveau vote, ça sera le 25 mai. Donc, nouvelle fois. Donc, c'est à la fin du mois de juin qu'on a ICANN 62, la réunion. Et les positions à la tête de la LAC, c'est le 25 mai qu'elles seront connues. Et la réunion du mois de juin, ça commence le 20... Panama, la réunion de Panama commence. À la fin du mois de juin. Donc, nous avons un mois. Je crois que ça suffit. C'est un temps suffisant pour faire la sélection du président de l'ALAC. Ça suffit. Donc, le seul problème potentiel que je vois, c'est que les membres entrants de l'ALAC ne seront peut-être pas financés pour aller à la réunion du mois de juin. Donc, il faudra réfléchir à cela. Donc, je pense que ce sera possible, Tijani, mais on n'a toujours pas les membres de l'ALAC apportés par DOMCOM. Oui, je crois que ça sera toujours trop tard pour cela. On ne sait pas quand est-ce qu'ils feront les annonces. Alan, au micro. ça suffira pour que les personnes viennent à la réunion un petit peu au dernier moment, mais ça ne donnera pas assez de temps pour nos procédures d'élection. Ça, on doit l'accepter, je crois, dans le cadre de nos règles et procédures. C'est relativement clair à ce niveau. Donc, Alain au micro, Javier a dit, faites-le avant, Sean dit, faites-le tôt si on peut attendre les nouvelles personnes qui seront au sein de la LAC. Donc, John l'a prise. Moi, je dirais, il faut avoir une continuité forte. On a beaucoup de travail à faire. La continuité est essentielle pour nous. Merci, Ricardo. John l'a prise. Donc, ce que cela veut dire, c'est que la sélection se fasse plus tôt que plus tard. Je soutiens cela. Et combien de personnes vont quitter la LAC, mis à part vous? Parce que je sais qu'à LAC Rallo, c'est les mêmes personnes pour l'année prochaine. J'en fais partie. Donc, dans les autres Rallo, qui est-ce qui va partir? Dans chaque Rallo, il y a la sélection chaque mois d'un membre de la LAC. Il y a deux membres. Donc, il n'y a pas de garantie que ça va être une personne différente. Il y a un processus de sélection annuel. Sean. Je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, trois semaines après le 25, je crois que trois semaines, ce n'est pas très long. Il y a aussi la planification et le financement donc du président entrant. Donc, vous voulez dire, il faudrait avoir au moins une semaine ou deux semaines de plus. Oui, on devrait vraiment essayer de faire cela. Donc, je sais qu'il y a une pause, une pause café qui est en cours. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Donc, dans 10 minutes, il sera 3h15. Donc, vous voulez conclure, d'autres personnes? Voilà. Donc, on lève la séance et on se retrouve dans 10 minutes. Et on aura des sujets intéressants sur les groupes de travail, RALO et ainsi de suite. On se retrouve dans 10 minutes.
15 minutes.
15 minutes.